Milieu Radio Silence, bonjour. Je suis de retour en France depuis le 8 août, ça fait 2 jours je crois. Et au moment où je partais du Cameroun, ELECAM, l'organisme chargé d'organiser les élections au Cameroun, avait retenu 9 candidats finalement. Sur une vingtaine qui s'étaient présentés à la candidature. Il y avait des critères bien précis qui ont été communiqués aux candidats, donc ils ne peuvent pas crier au loup ou à la fraude. Et ELECAM était là pour déjà regarder la conformité des candidatures avec les textes prévus et que tout le monde connaissait par avance. Donc la sélection a été transparente et pour le moment il n'y a pas de cri d'orfraie. 9 candidats face au président Paul Biya, on ne sait pas, on verra. Personne ne peut dire, je ne suis pas Madame Irma là, pour le coup je ne peux pas prophétiser. Simplement, c'est vrai que les candidats de l'opposition n'ont pas vraiment la main. Parce que d'abord ils sont 9 contre 1, ça fait beaucoup de voix dispersées. Il y a eu des appels à une forme d'union de l'opposition, afin qu'il y ait un candidat pas forcément solide, mais qui soit rassembleur en face du président Biya pour multiplier les chances de l'opposition de pouvoir l'emporter devant le président Biya. Bon, c'est que tous les candidats, c'est une élection, chacun a toujours sa chance. Hein. Les Camerounais sont eux-mêmes partie prenante d'une bureaucratie, on peut appeler ça comme cela, laquelle bureaucratie elle-même n'est pas du fait exclusif de la gouvernance nationale. Parce que moi, j'ai vu deux choses qui m'ont marqué et je me réjouis qu'à mon arrivée ici, on a essayé de. J'ai trouvé que le Rand Paul Institute avait soulevé une première question et puis au Cameroun, j'ai vu l'autre question qui est la question de du dépassement comme ça du métier de taxi. Le taxi est en train de sombrer, hein, parce que surtout à Douala, là où il y a des motos, le taxi, il perd des parts de marché énormes. D'abord parce que quand il y a des bouchons, il sera forcément plus lent que la moto qui se faufile. Et ensuite parce que, je ne sais pas, c'est plus facile d'acquérir financièrement une moto que de se lancer dans un taxi, parce qu'il paraît qu'avec le taxi, tous les 3 mois, il faut aller renouveler une paperasse, une panoplie d'impôts et de taxes qui rendent le métier lourd. Et ça ne joue pas en faveur des taxis. Et je vous assure que maintenant, au Cameroun, si vous êtes un jeune diplômé, parce que c'est ce qui court la rue, la plupart de ces motorboys, là, ils ont des diplômes, hein, y a pas de travail. Vous achetez une moto et vous allez vraiment vous en sortir parce que tout le monde prend la moto. Moi-même, j'ai joué le jeu. Et franchement, c'est même agréable parce qu'on a l'impression comme ça d'être libre, de respirer et de ne pas s'étouffer dans un taxi et d'aller plus vite. Et surtout parce que le contexte appelait les motos un peu comme à la rescousse, hein. Les rues et les routes qui mènent dans les habitations et les quartiers sont impraticables, c'est épouvantable. Et plus on s'enfonce dans le quartier, plus c'est pénible de remonter sur la route pour trouver son taxi. Ah, du coup, les motos passent fréquemment. Vous prenez une moto qui vous fait carrément du dépôt à la Uber. Voilà, c'est la Uber, c'est de votre domicile à là où vous allez. Vous n'avez pas du tout à vous décastracasser. C'est vraiment facile de prendre la moto. Et tout cela fait que ben, le taxi souffre, le taxi souffre. Est-ce la faute des motoboys? Non, c'est parce que les infrastructures sont en retard. Je ne sais pas pour Uber aux États-Unis, parce que le maire de New York a sévi là. Mais au Cameroun, ça s'explique très facilement. L'état des routes est lamentable. À partir de là, le logement, c'est n'importe quoi. L'urbanité, c'est pareil. À partir de là, les motos gagnent. Ça, j'ai trouvé cette question. Je ne sais pas si elle sera soulevée aux élections, si les taximens vont s'organiser en collectif pour aller revendiquer quelque chose ou faire passer des doléances. Je n'ai pas vu vraiment cela s'organiser. Mais le métier est débordé d'un côté par des personnels hein, qui proposent leurs services aussi, pourquoi pas, et de l'autre par les motos. Et puis il y a au Cameroun comme ça des bus de transport, des cars de transport qui ont fait tomber le rail. Et là-dessus, je ne sais pas aussi ce que le rail, enfin la politique du rail du Cameroun. Puisque le rail est confié à Bolloré, lequel Bolloré, vous savez, traîne des pieds. Déjà, le procès des ECA depuis le temps que les gens sont morts, on en est toujours là. Les conditions même d'attribution de ce camrail à Monsieur Bolloré, de fonctionnement du rail, qu'est-ce que l'État veut privilégier? L'enrichissement personnel des hommes d'affaires qui font donc bon voilà, qui se font du beurre hein, sur le dos de toute la nation. Avec les bus, les transports à n'en plus finir, lesquels transports eux-mêmes. Je veux dire, le Cameroun a eu une opportunité formidable de créer un peu ce que Paris a fait avec sa ceinture en créant des portes. La porte de l'Ouest, par exemple, la porte de l'Est, la porte du Sud, la porte du littoral, tout ça, ce serait très très bien. Et les bus resteraient là-bas pour embarquer leurs passagers et ça développerait un écosystème. Au niveau de ces portes, qui serait vraiment très intéressant. Pour finir avec le Cameroun, les infrastructures routières, c'est vital. Dans les villages, c'est pareil. Là-bas, on a des tercelles, sont-elles qui sont très solides, qui vont dans des routes. Je vous dis pas, ça donne froid dans le dos. L'État ne prend pas en compte le fait que s'il ouvre les routes, s'il donne la route, parce que les habitants appellent cette route de leur vœu. Mais s'il y aura une explosion d'imagination, d'esprit créatif et des choses qui vont se faire, j'allais dire toute seule, parce que lorsque les gens sont confinés dans une forme de misère comme ça, dure, ils développent des comportements de survie et de réaction qui sont absolument extraordinaires. Et pour clore ce chapitre du Cameroun, j'ai vu qu'il y avait la religion qui montait, mais alors en puissance, les gens s'en remettent à Dieu parce qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer. Et ce Dieu, normalement, il existe pour moi, mais il est instrumentalisé, ou plutôt il est, oui, il sert maintenant de pommade. Oui, c'est vrai, c'est spirituel, c'est l'espoir, mais il semblerait que la chose soit plus cynique, c'est-à-dire plus on presse les gens, plus on leur offre la religion de l'autre côté afin qu'ils puissent supporter cette pression qui autrement ne serait pas intenable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des surprises, hein, parce que la moto, elle arrivait un peu comme cela, hein, au secours des chômeurs diplômés, et finalement, c'est pas plus mal, ça rend service, et cette religion comme ça qui arrive au secours des populations vraiment des naufragés. Des populations qui maintiennent la tête hors de l'eau pour encore respirer l'esprit du Saint-Esprit, finalement, peut-être que, paradoxalement, ben, la solution viendrait peut-être aussi de là. Bien, on appelle ça l'énergie, comment on dit ça, je sais pas si c'est du désespoir ou la dernière énergie quoi qu'on peut produire avant de sombrer carrément. Et cette énergie, elle peut être explosive, c'est le cas de le dire. Bon, ça c'était pour le Cameroun. Sinon, vous savez ce qui se trame en ce moment. Ce qui se trame concernant les dégâts de l'espionnage technologique. On a atteint là les abîmes de la civilisation. Au Cameroun, moi, j'étais surprise de voir que, voilà, quand je partais d'ici, en France, pas quand je partais, quand j'étais là, quand je suis là, je sais plus quel temps utiliser, j'ai vu tout cet espionnage, tout ce harcèlement politique, on appelle ça la persécution. À un moment donné, je me suis dit, bah, c'est propre à la France, parce que bah, ici en France, on sait bien qui règne maintenant. Et j'arrive au Cameroun, je trouve exactement la même chose, copier-coller. En fait, ce que j'ai vu ici existe dans le monde entier. Puisqu'aux États-Unis, moi, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme, ben, des gens sont allés voir hein, du côté des États-Unis, et ils ont révélé des choses là. Je vous mettrai le lien sur deux articles qui montrent clairement toutes les méthodes utilisées. Ça va de vos infidélités dans le couple, de vos pratiques, vos habitudes sexuelles, vous voyez, Ramadan, pourquoi elle est en prison, de la taille de vos parties génitales, ça, il faut le savoir, de la fréquence de votre activité, de votre dossier médical volé pour savoir quelles sont les maladies qu'il y a dans la famille. Tout cela est utilisé après, parce que la Palestine a certainement servi de terrain d'expérimentation. Pour faire pression sur vous afin que vous deveniez soit collaboration, je sais pas comment on les appelle, soit comment dire, soit alors si vous n'acceptez pas, ben ça va être la division qui va arriver comme ça au sein des familles, et les familles vont éclater. C'est soit la division aujourd'hui, vous voyez, hein, le choix est simple, soit vous collaborez avec cette chose invisible qui traîne dans le monde qu'on ne voit pas mais qui crée des dégâts terribles, et soit on casse les familles. J'ai vécu tout ça en Afrique, mais de façon hallucinante. Alors, on vous surveille, on vous dit que c'est pour le terrorisme, mais ce n'est pas pour le terrorisme. C'est utilisé à des fins de tyrannie politique, à des fins de persécution politique de ceux qui ne sont pas d'accord avec les pratiques de cette chose-là. Et je ne sais pas si vous voyez un peu le détournement que cela crée au niveau des institutions. Quelqu'un a dit que la réponse à la crise démocratique n'était pas institutionnelle, qu'elle servait à rien, pratiquement. Non, mais vraiment. C'est ça le problème. Les intellectuels sont les premiers fossoyeurs de la démocratie parce qu'ils sont devenus collabos ou alors participent à cette course-là de la division. Vous allez les voir, suivez toujours le double langage. Ou plutôt le langage paradoxal. Au début, c'est très bien, les intellos, voilà. Vous allez sur Public Sénat, la rubrique littéraire, on parle très bien. Et puis à la fin, parce que voilà, on fait semblant de dénoncer, mais à la fin, parce qu'on fait partie du clan, on va redresser tout cela par une seule phrase ou par deux mots, retomber dans le politiquement correct qui encadre la pensée. Enfin, la non-pensée intellectuelle, enfin, qui est devenue l'activité intellectuelle, qui est travestie, complètement travestie. Je veux dire, si vous n'êtes pas d'accord avec la chose, vous giclez. Et pour que vous soyez d'accord, mais tous les moyens sont mis en œuvre. Ça va de ces invités qui ont droit à la parole dans les universités, ça va même de ce qui passe dans les médias, on n'en parle même plus. Donc, si vous, ça va, les réseaux sociaux ont la mise pour mission principale, tout ce qui est gratuit, vous le payez au centuple parce que vous le payez par votre sang et par votre esprit et par votre âme. C'est ce que vous laissez là quand vous utilisez la gratuité. Ça peut pas être gratuit, c'est pas possible, ça n'a jamais été gratuit. Il n'y a que l'éducation qui est gratuite. Tout le reste n'est pas gratuit. Ne vous leurrez pas. C'est comme ça que vous allez vous-même vendre votre âme au diable et le diable réutilise ça contre vous alors qu'il vous avait dit que c'était gratuit. Tout est fait pour qu'il y ait une censure. Quand on dit même censure de la LF, vous savez, la liberté d'expression, ça ne veut plus rien dire. Hein. Au Cameroun, vous pouvez parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne vous fera rien. Parce que ça ne prête pas à conséquence. Il y a plus, la liberté d'expression a été neutralisée parce qu'en amont, on a neutralisé sa force. Les intellectuels ne sont pas là pour donner écho à tout ce qui est bon, positif, révolutionnaire et tout. Non, ils sont là pour faire le jeu de la chose. Donc, du coup, ils maintiennent les institutions dans un arriérisme fonctionnel qui fait que tout se perd. Et il y a le cas d'un think tank exemplaire qu'on appelle The Atlantic Council. Alors lui, il est financé par le monde entier, voyez un peu, hein, depuis les pays, l'Arabie Saoudite, jusqu'au gouvernement américain, en passant par l'Union européenne, et puis la British, et puis toutes les banques, et tout ça. Vous retrouvez le consortium qui était à l'origine de la crise de 2008, le Too Big to Fail, et à l'origine de la manipulation de l'information par les médias, mais aussi par les agences de notation, parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on a tout verrouillé en amont, l'institution est vidée de son contenu, elle n'a plus de force ni de sens. Elle ne peut que constater les dégâts et faire ce qu'elle peut. Et lorsqu'en plus on dit too big to fail, c'est-à-dire que ben voilà, on est devant le fait accompli, on ne peut rien faire vraiment, là on a atteint le summum du cynisme. Ah, je ne sais pas comment dire ça. Il y a les moments que pour décrire, on va dire satanisme, c'est pas fort, on va dire machiavélique, c'est pas fort, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être démoniaque, je ne sais même pas, mais il y a un travail herculéen à faire et pour que les institutions se remettent à fonctionner normalement. Et ça commence déjà par ce que M. Mélenchon veut faire là à Marseille, parce qu'il a réagi aussi très bien à la suite de tout cela, c'est le débat. S'il n'y a pas un vrai débat franc entre les acteurs, ben alors il y aura, j'ai envie d'utiliser le mot fétiche là, il n'y aura rien en face. Mais alors, ça sera même pas rien, parce que rien, quelque part, ça ne veut plus rien dire. Ben, ça sera le néant. Ça sera le néant. Et on était sur cette voie-là. Dieu merci. Il y a quand même une conscience qui est mondiale. Ça, j'ai vu au Cameroun des gens qui sont en Afrique même. J'ai vu à Afrique Média des Africains qui sont au point de révolte tel que non. C'est ça passe ou ça casse. Le colon, il doit s'en aller parce que le problème, c'est cette chose-là qu'on ne voit pas, qui parasite le monde entier, toutes les institutions, depuis les Nations Unies jusqu'au petit maire du village au fin fond de l'Afrique. C'est pour vous dire l'étendue, je veux dire l'amplitude de la chose, comment elle a étendu sa toile sur le monde. Et si nous restons là à regarder cela, c'est que non seulement nous n'avons rien compris à la foi, parce que c'est la foi qui nous libère, nous n'avons rien compris à la vérité et nous n'avons rien compris à la vie. L'Argentine est en bonne voie, qui a dit non à l'avortement. Amis des Radio Silence, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ne perdez surtout pas la foi. Alors, comment je peux dire là? Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia.